Donc on arrive à la finale de l'épître selon saint Jean et on a aussi un évangile selon saint Jean aujourd'hui. Alors il est possible que cette épître, ce qui est dit là, soit un peu difficile à entendre et en conséquence de quoi c'est une très belle occasion pour nous de réfléchir et en lisant cette épître, je pensais à une phrase de l'Évangile. Vous savez, le passage où Jésus dit si quelqu'un ne mange pas ma chair et ne boit pas mon sang, il ne peut pas être mon disciple. Et les gens disent ce qu'il dit là est intolérable. Et tout le monde fiche le camp. Et Jésus se tourne vers ses apôtres et leur dit, voulez-vous vous aussi partir? Donc voici l'assurance que nous avons auprès de Dieu. Si nous faisons une demande selon sa volonté, il nous écoute. Et nous savons qu'il nous écoute en toutes nos demandes et nous savons aussi que nous obtenons ce que nous lui avons demandé. Alors il y en a peut-être qui intérieurement se disent, ben non, moi j'ai demandé ça et je ne l'ai jamais eu. Mais j'ai l'impression que Dieu n'a pas entendu. Et pourtant, ben, ce n'était pas quelque chose qui me semble aller contre la volonté de Dieu. C'était pour mon avenir, c'était pour que guérisse quelqu'un. Que sais-je? On a des multitudes d'exemples qui peuvent venir comme ça. On peut être meurtri parce que la mort d'un enfant, voilà. Et on va dire Dieu n'était pas là, et c'est intolérable, et je lui en veux à mort. Je continue de croire en Dieu, mais il y a un truc qui est bloqué. Bon, je prends un cas extrême. Il peut y avoir plein d'autres cas extrêmes, hein. Voilà. Notre réaction nous révèle qui est Dieu pour nous. Donc j'ai conscience de dire quelque chose de très difficile. Je parle de moi là. Et notre réaction nous révèle qui est Dieu pour nous aujourd'hui. Où nous en sommes à notre relation à Dieu. Plutôt que de blablater, je voudrais vous lire le paragraphe d'un livre dont j'ai parlé déjà il y a quelques jours à plusieurs personnes. Voici un paragraphe de ce livre. Dans le commerce, chacun cherche son intérêt. Le vendeur accepte de se saisir d'un objet de valeur, mais à la condition d'en tirer le maximum. Le client est prêt à payer à cher, condition d'obtenir ce qu'il convoite. Celui qui prie en offrant quelque chose de lui-même, quelque chose de sa vie à Dieu, n'est-il pas un honnête commerçant? Ne cherche-t-il pas à obtenir quelque chose en contrepartie de ses efforts, donnant au juste prix? Paragraphe suivant, Dieu fait payer trop cher. Paragraphe suivant, malheureux celui qui négocie avec Dieu. Et j'en viens au quatrième paragraphe, Dieu au-delà de l'échange. Voici ce que dit l'auteur. Dieu, lui, n'aime pas le commerce. Au sacrifice, j'en ai horreur, disait-il par les prophètes. Ne faites pas de la maison de mon Père un lieu de trafic, disait Jésus en chassant les marchands du temple. Il donne largement, librement. Mais si tu prends conscience de la générosité de Dieu, tu n'es pas encore sûr d'être sorti du commerce. Cette phrase, faites attention à ce que je dis. Hein. Mais si tu prends conscience de la générosité de Dieu, tu n'es pas encore sûr d'être sorti du commerce. Pour entrer en véritable relation avec Dieu, il te faut t'intéresser plus à lui qu'à ce qu'il donne, plus à ce que tu es qu'à ce que tu fais pour lui. On ne possède pas les dons de Dieu. La prière n'est pas une monnaie Le temple doit être vide. C'est les titres des paragraphes de cet ouvrage. Voilà. Un renoncement à la possession. Donc ce livre s'appelle Laisse Dieu être Dieu en toi, édité au Cerf, par Jean-Marie Guélet. J'en ai déjà parlé, je crois, l'autre jour. Donc pourquoi je vous dis ça? J'ai conscience que c'est difficile ce que je dis ce matin. Hein. Je ne suis pas en train de fanfaronner. Hein. Tout le passage est difficile. Et peut-être que la finale nous éclaire. Gardez-vous des idoles. Autrement dit, si, bon, je parle, là je suis dans l'hypothèse que ce passage de l'épître vous heurte. Il peut y avoir des gens que ça ne heurte pas du tout et qui comprennent, mais qui comprendront aussi ce que je dis. Gardez-vous des idoles. Au fond, si nous sommes heurtés par ce passage, la question c'est, quelle idole est-ce que je suis? Du verbe suivre. Je dis pas ça sous l'angle du reproche, hein. Je fanfaronne pas, je disais. Je dis ça pour quelqu'un qui voudrait vraiment sortir de cette logique du commerce, du donnant-donnant, « mais Dieu n'aurait pas dû permettre »,« Dieu m'a pas répondu », c'est pas possible. C'est pas possible parce que si c'est ça, Dieu n'existe pas. Donc il va falloir choisir. Soit Dieu existe, soit il n'existe pas. Mais s'il existe, il répond. Il ne fait pas de commerce. Il est toujours là. Il voit tout. Donc il y a une autre question à se poser. Dieu entend et répond toujours. Dieu agit, Dieu obéit. Mais du coup, la question, c'est est-ce que je connais Dieu? Quelle image ai-je de mon Dieu? Est-ce que je veux naître de Dieu? Alors, si vous êtes baptisé, vous êtes né de Dieu. Mais est-ce que cette filiation s'est déployée en vous, en nous, suffisamment? En fait, la question, c'est est-ce que Dieu t'intéresse, quoi? Vous voyez, des amis se rendent des services. Mais que diriez-vous de quelqu'un qui vous appellerait uniquement pour vous dire, dis donc, il y a un bon plan là-dessus, là il y a une promo, là. Est-ce que c'est un ami? Quel type d'amitié c'est? Est-ce que l'amitié, ça ne consiste pas aussi à être ensemble, sans rien dire? À pouvoir se promener ensemble et regarder, je sais pas quoi, à aller visiter une exposition, à regarder un coucher de soleil, à être ensemble et non pas à faire quelque chose. Bien sûr, un ami peut faire quelque chose pour un ami. Ça ne pose pas de question. Mais au fond, il y a aussi le fait d'être ensemble, qui n'est pas de l'ordre donc du faire. Donc c'est ce que Dieu attend avec nous. Voilà. Et peut-être nous avons l'image d'un Dieu un peu magicien. Pour diverses raisons, on n'est pas forcément responsable. Il faut juste en prendre conscience. Bon voilà, tout ça c'est difficile, hein. J'ai parfaitement conscience que c'est dur à... Ça remet en question. Se dire, mais alors je fais quoi? Alors je vais prier. Je vais recevoir l'appel de Dieu. La prière, c'est d'abord un appel de Dieu et ensuite une réponse de l'homme. Prière, c'est une respiration et Dieu prie lui aussi. Lui, pas pareillement. Dieu nous prie d'entendre son appel. Qu'est-ce qu'il va y gagner? Ben, il n'est pas dans le commerce. Donc, il n'est pas gagnant. Il ne cherche pas à gagner. Et il est Dieu, qu'est-ce que vous voulez qu'il gagne? Et tout de suite tout. Il ne cherche pas à gagner. Il cherche à être en relation avec les créatures. Voilà, c'est assez. Alors oui, ça résout pas le drame de la maladie. Mais faut-il le résoudre? Faut-il le résoudre? Est-ce que la vie terrestre est éternelle ou pas? Si la vie terrestre était éternelle, il faudrait le résoudre. Si la vie terrestre est une préparation, un passage, il faut préparer le passage. L'Évangile nous propose une très belle illustration de cette absence de commerce. Jean n'est pas dans du commerce. Voilà, tu te rends compte, tu sais, celui que tu as désigné, bah, il est en train de te piquer tous tes clients, quoi. En fait, c'est ce que disent les disciples de Jean, enfin ces disciples-là. D'ailleurs, c'est assez drôle dans le texte parce qu'on dit un juif, avec une majuscule. Alors, c'est qui le juif? C'est Jésus? Pourquoi il y a un juif? Pourquoi il n'y a pas écrit Jésus? C'est quand même hyper bizarre ce truc, hein, vous avouerez. Pourquoi est-ce que dans l'évangile de Jean, là, il y a écrit un juif? Je vais regarder si j'avais pas pensé à regarder tout à l'heure. Voilà, c'est ici. Parce que maintenant, il dit entre eux. Et alors, un des Juifs, dit le texte syriaque du deuxième siècle. Bon, on peut dire les deux, hein, on peut lire les deux. Voilà. On n'est pas avancé. Bon, il y a une discussion en tout cas. Donc les disciples disent, mais enfin voilà, et tout le monde va à lui. Le fonds de commerce, qu'est-ce qu'il va devenir? Et là, nous avons le témoignage de Jean, qui remet les choses en place. Un homme ne peut rien s'attribuer sinon ce qui lui est donné du ciel. C'est les paroles de Jean-Baptiste, hein. Ce n'est pas les paroles de Jésus, ça. Souvent, on pense que ce n'est pas lui, mais. Vous voyez, Jean, il reprend la bonne direction. Hé, hey, les gars, ce qu'on est en train de faire, ce n'est pas de l'horizontalité, hein. On cherche Dieu et on attend son règne. Et donc, il les recentre sur la verticalité. Tout vient de Dieu. Tout est à recevoir de Dieu. Mais pas en tant que. C'est un choix de recevoir de Dieu. C'est un choix de se mettre sous le regard de Dieu en disant à Dieu, voilà, Jésus, il vient de m'arriver un truc terrible. Vous savez, allez le dire comme si vous le disiez à un ami. Voilà, il vient de m'arriver un truc terrible. J'ai un accident. Bon bah mon bras est peut-être perdu. Tu te rends compte? Puis d'entendre Jésus dans notre cœur réagir et lui dire, voilà, c'est une épreuve terrible, je voulais t'en parler, je voudrais qu'on en. Et j'espère que tu seras là pour que je vive ça le mieux possible. Vous voyez, il me semble qu'une telle prière est plus conforme à ce que Dieu est et à ce que nous pouvons être. Plutôt qu'une révolte. Vous savez, Jésus dans l'Évangile dit, il vaut mieux arriver manchot dans le royaume de Dieu, plutôt qu'avec ses deux bras dans la géhenne. On a porté il y a un passage dans le livre de Monseigneur Trochu sur le curé d'Ars, où on dit qu'on lui apportait des malades qui n'étaient pas guéris, parce qu'il ne faisait peut-être pas beaucoup de miracles, le curé d'Ars, du point de vue guérison physique. Spirituellement, ça c'est une autre question, enfin c'est pas une question d'ailleurs. Il y avait des miracles invraisemblables, incroyables. Mais là, et en fait, il y a une jeune fille aveugle qui est amené par quelqu'un et qui voudrait recouvrer la vue. Ben, c'est tout à fait légitime. Et le curé d'Ars lui dit, bien sûr, vous pouvez guérir. Mais si vous retrouvez la vue, n'est pas sûr du tout que vous alliez au ciel. Alors que si vous demeurez dans votre état, vous aurez une très belle place. C'est pas une carte ancienne, hein, le curé d'Ars. Il disait ça, il le voyait. Bon, alors peut-être vous trouvez scandaleux ce que je suis en train de dire. Voilà. Et peut-être il y a besoin de purifier beaucoup de choses en nous pour que ça devienne pas scandaleux. Peut-être ça veut dire qu'on est tellement matérialiste qu'on est tourné vers le sol, quoi. Et que c'est pas juste. Oui, si on est tourné vers le sol, c'est pas juste. C'est pas juste. Voilà. Alors, rien d'autre à dire dans ce cas-là. Voilà, et Jean, donc dans l'évangile, est bien clair là-dessus. Hein. Lui, il est heureux. Jean, il est heureux. Il perd tout son fonds de commerce, il est heureux, quoi. C'est pas banal, quand même. Hein. Entre parenthèses, son fonds de commerce ne lui rapportait pas grand-chose. Hein. Il bouffait des sauterelles, il était vêtu de peau de chameau, bon, il vivait dans le désert. Bon, on est assez loin de l'air climatisé à Dubaï, de l'eau de mer transformée en eau douce et des arrosoirs de pelouse en or. Hein. Bon, voyez... Voilà. Il est content. Il a tout perdu, il est content. Parce que moi, il n'est plus embarrassé par les idoles, quoi. D'une part. Et puis, il a rempli sa mission. Il a désigné l'époux. Et il dit, ma joie est parfaite. C'est quand même dingue. Je lui dis, voilà, je suis content, j'ai tout perdu. Je suis plus rien maintenant. Tout le monde va se barrer. Tout le monde va le suivre, et voilà. Et il se lâche complètement, à tel point que bah, il tient à plus rien, quoi. Il voit Hérode qui fait n'importe quoi avec la femme de son frère Philippe, et lui dit, t'as pas le droit. Ah, il le fout en taule. Puis il va finir par en perdre la tête, quoi. Et en fait, Jean-Baptiste a complètement perdu la tête. Et ça va devenir tellement fort qu'il va la perdre physiquement, quoi. Il faut qu'ils grandissent. Bah, c'est tout est là. Hein. C'est le commentaire de l'épître de Saint Jean que j'ai lu tout à l'heure. Il faut que Dieu grandisse, que ma connaissance de Dieu grandisse, que Dieu grandisse en moi, que Dieu, que je diminue dans mes prétentions, dans mon orgueil, dans mes exigences, dans mes déceptions, dans ma conception de Dieu. Qui es-tu, Seigneur? Alors, du coup, on peut se dire, mais waouh, tout ça c'est bien, mais bon, j'ai la foi finalement ou pas? Bien sûr qu'on a la foi, sinon on ne se poserait pas ces questions. Puis la foi, c'est un don de Dieu. Et voilà, Jésus dit, la foi, si vous en aviez gros comme un grain de sénévé, vous déplaceriez les montagnes. Alors nous pouvons nous dire que tant que nous ne déplaçons pas les montagnes, bah oui, notre foi... est plus petite qu'un grain de sénévé. Mais elle est là. Elle est là. Voilà, donc ce commentaire, bon, vous jugez rien, hein, ça vous fera peut-être réagir. Et à côté de ça, ben vous voyez, il y a la paix. La paix de, précisément, de Jean. Pourtant, Jean, il va douter un moment. Il dira, mais es-tu celui qui doit venir, an alium expectamus, ou devons-nous en expecter un autre? Il finit par se dire, mais... Il se dit, pas mince, j'ai perdu mon fonds de commerce. Il se dit, mais est-ce que c'était le bon, finalement? Parce que moi, je pensais qu'il allait ratiboiser tout le monde. Et en fait, il est en train de se laisser prendre. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Vous voyez ce modèle de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste modèle de vie spirituelle, de détachement, de recherche sincère de Dieu, de joie, de... Voilà. Et pourtant, Jésus dit, c'est le plus petit dans le royaume des cieux. Alors ça veut dire que nous qui venons après, nous avons beaucoup plus, nous connaissons beaucoup plus de choses que Jean. Comment pouvons-nous douter? Voilà. Mais est-ce que nous nourrissons notre foi? Alors c'est pas un reproche moral que je fais, hein. C'est un choix de nourrir sa foi aujourd'hui. C'est un choix de nourrir sa foi aujourd'hui. Si vous regardez les médias, si vous regardez les journaux, ben vous n'entendrez pas parler de Dieu. Il n'y a pas un article dans le Figaro qui vous dira « Bon, ben aujourd'hui, nous étudions le credo de Nicée. Voilà ce qui est écrit, voilà comment vous pouvez le vivre dans votre vie. » Ben non, il faut que vous alliez chercher l'information. Il faut que vous choisissiez de faire une retraite, il faut que vous choisissiez des livres. Bon, celui que je vous ai indiqué tout à l'heure peut être, ça peut peut-être aider certaines personnes. C'est peut-être pas l'heure non plus. Voilà, il vous faut lire. Vous voyez tout ce que l'on voit dans la journée, tout ce que vous voyez aujourd'hui, tout ce que vous allez voir aujourd'hui, ça va nourrir quelque chose en vous. Mais ça va nourrir quoi ? La prière que vous essaierez de faire, ou bien l'égoïsme, ou bien le besoin de posséder, ou bien qu'est-ce que ça va nourrir en vous? Alors, ben oui, il faut faire des choix. Il va falloir choisir ce que vous acceptez de voir, de rencontrer, volontairement, j'entends. Et tout ce que nous absorbons nourrit quelque chose en nous. Est-ce que ça nourrit le bien ou est-ce que ça nourrit le mal? Alors c'est quasi monacal, je n'ai rien à dire à ça. Eh oui, il y a une époque où le dimanche, on ne travaillait pas. On allait aux vêpres tous les dimanches. On disait le chapelet. Eh oui, il y a une époque où le dimanche était consacré à Dieu. Mais je vous ferai remarquer qu'il l'est toujours. Alors peut-être il n'y a plus que dans certains monastères, et encore pas toujours, où c'est vécu. Mais ce n'est pas vrai, parce qu'il y a des gens qui vivent ça. Faut-il attendre la retraite pour sanctifier le dimanche, franchement? C'est une vraie question, hein? Est-ce que Dieu trouvera la foi quand il reviendra? Alors tout ça, ben, ça ne nous aide pas à nourrir en nous la vérité de ce qu'est Dieu.